Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons aujourd'hui notre émission sur les fins dernières avec le livre du Père Philippe-Marie Margelidon, de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains. Je rappelle donc que le frère Philippe-Marie est professeur de théologie à la faculté théologique de Toulouse, directeur de la revue Thomiste, et qu'il enseigne aussi à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin et dirige le studium de théologie des dominicains de la province de Toulouse. Donc voilà, nous poursuivons ce thème sur l'eschatologie, sur les fins dernières. Et donc nous allons poursuivre aujourd'hui sur le thème de la résurrection du Christ, le Christ ressuscité et la fin de l'histoire. Bien sûr, ce qui commande tout notre regard de théologie sur la fin des temps, la fin dernière, c'est la résurrection du Christ, évidemment. Le Christ est ressuscité et il est, d'après ce que nous dit aussi saint Paul, le premier des ressuscités. Nous aussi, nous ressusciterons à l'image du Christ qui est mort et ressuscité. Donc, si nous voulons regarder ces fins dernières, eh bien, nous devons les voir dans la lumière de la victoire du Christ à travers sa résurrection. Le Christ ressuscité est la fin de l'histoire. À y regarder de près, l'humanité ne semble que faiblement changée malgré l'événement de l'incarnation de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans notre dernière émission. Et on voit que même si le mystère du salut a été consommé, la victime a été immolée, le Christ, eh bien, malgré tout, nous pouvons constater autour de nous et en nous aussi, eh bien, que le péché est encore bien présent, et le mal est encore bien présent aussi au cœur du monde, et l'actualité, malheureusement, nous le rappelle. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et donc, l'incarnation n'a pas changé tout d'un coup le cours de l'histoire. Celle-ci, dans son histoire, reste bien humaine, trop humaine, sous l'emprise des passions humaines, collectives, individuelles, et aussi sous des projets humains, des projets idéologiques, des réalisations politiques, parfois, et parfois même aussi aberrantes, comme on a pu le voir dans le passé, comme on peut encore le voir aujourd'hui, malheureusement. L'histoire des hommes porte encore la marque du péché et de la chute, plus que de la grâce et du rachat, du moins au niveau visible, de ce que nous pouvons voir de nos yeux. Mais l'œuvre du salut est bien réelle et elle agit aussi au cœur de ce monde. Et avec un regard plus profond, nous voyons aussi cette œuvre de Dieu. Dans les heures les plus terribles de l'humanité, Dieu a toujours suscité et bien des saints. Il a suscité la lumière, il a suscité aussi la victoire de l'amour sur la haine. Et bien, le Seigneur aussi continue à le faire encore aujourd'hui, bien sûr. Donc, les actualités, les médias nous montrent souvent le côté tragique, le côté noir, le côté pécheur de l'humanité. Mais, eh bien, à côté de ça, il faut aussi que notre regard de foi voit déjà les victoires qui sont déjà données. Et bien sûr, ça ne fait pas la une des journaux, mais en même temps, si nous savons regarder un petit peu autour de nous et avoir des oreilles aussi un peu attentives, nous voyons aussi les merveilles que le Seigneur fait. Alors, mais tout ça, bien sûr, c'est de manière cachée. Ça n'éclate pas au grand jour. Au contraire, c'est plutôt ce poids du péché qui semble victorieux. Et il ne faut pas s'en étonner parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour le Christ. Le mystère du salut qui s'est réalisé dans la personne de Jésus nous montre cela. le Christ en croix, bien semble un échec apparent. Apparemment, qu'est-ce que peut faire un homme cloué sur la croix? Comment un homme cloué sur la croix peut nous rendre libres? Comment peut-il être sauveur? Eh bien, et pourtant, c'est bien là qu'il nous sauve. Par sa mort, il a détruit la mort. Par sa mort, il a fait resplendir la vie. Et dans ses plaies, dit Saint Paul aussi, et Saint Pierre, l'apôtre Pierre, dans ses plaies, eh bien, nous avons la victoire. Alors, voilà, il faut aussi savoir avoir ce regard de foi qui est propre au temps que nous vivons. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce pèlerinage de la foi victorieuse, mais victorieuse aussi au cœur et au milieu des ténèbres. Le Christ est Seigneur parce qu'il est le centre de l'histoire du salut. Or, c'est une thèse fondamentale du Nouveau Testament que cette seigneurie du Christ relativise toute l'activité humaine, dans la mesure où celle-ci n'a de sens et de valeur que dans son ordination au Christ et à la fin des temps. Il n'est pas étonnant que le radicalisme évangélique ait pu prendre la forme aussi d'un contemptus mundi, c'est-à-dire d'une forme qu'on aurait pu dire de rejet du monde, de mépris du monde. Mais il faut bien aussi comprendre dans quel sens. C'est le mépris du mal qui est dans ce monde. Ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé, mais plutôt défiguré par le péché. Ce monde qui gît au pouvoir des ténèbres, ce monde qui nous met dans la mort, dans la corruption, dans le pouvoir anarchique de l'argent, de la violence, etc. C'est tout ce monde des ténèbres que nous devons mépriser. Mépriser au sens de le rejeter. C'est la promesse de notre baptême. Quand nous avons été baptisés, nous avons renoncé, et si nous avons été baptisés petits, nos parrains, marraines et parents aussi ont professé leur foi en notre nom. Et en notre nom, ils ont renoncé à Satan et à ses pouvoirs de ténèbres pour se tourner vers la lumière, pour nous donner aussi la possibilité de recevoir la lumière. Et ce baptême, rappelons-le, est renouvelé aussi par un autre sacrement qui est celui de la confirmation. Le sacrement de la confirmation, c'est moi en tant qu'adulte, adulte dans la foi, je pose un acte pour dire que le baptême que j'ai reçu, même en étant petit, je le renouvelle et je m'engage à être fidèle au Christ jusqu'au bout. Donc, les promesses de notre baptême, elles nous plongent au cœur du combat. Nous rejetons l'activité des ténèbres et nous nous tournons vers la lumière. Ce que la liturgie nous invite à faire à chaque fois qu'on célèbre la Pâque. Quand le jour de Pâques, nous renouvelons ces promesses du baptême. Et rappelons-le aussi, comme la parole de Dieu nous le dit, comme Saint Paul encore une fois nous le dit, il n'y a qu'un seul salut, et c'est dans l'histoire que l'homme fait son salut. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. L'histoire humaine n'est pas directement ordonnée au salut, sa fin temporelle et historique ne débouche pas de soi et par soi dans la vie éternelle. L'histoire est ambivalente. Elle ne progresse pas nécessairement, si progrès il y a dans le bien, elle connaît aussi des périodes de régression morale, politique, culturelle et religieuse. Le temporel et l'éternel sont distincts comme l'éternité et le temps. Mais c'est le même homme qui joue dans l'histoire humaine sa vie temporelle et sa fin éternelle. Donc, dans notre histoire, comme aussi dans l'implication que nous avons aussi sur la société, dans notre vie personnelle, nous jouons aussi ce rôle, ce jeu de la vie aussi éternelle se joue maintenant. C'est maintenant que nous posons des choix, c'est maintenant que nous pouvons nous orienter vers le Seigneur, c'est maintenant que nous devons le choisir et accepter de renoncer au mal et choisir le bien choisir le Christ, choisir la fidélité à ses commandements, etc. Dans la vie éternelle, eh bien, nous récolterons ce que nous aurons choisi. Celui qui a choisi le bien, il récoltera le bien. Celui qui choisit le mal, celui qui choisit d'être séparé de Dieu, de vivre sans Dieu, eh bien, Dieu ne pourra pas faire autrement que respecter son choix, même dans l'éternité. Et donc, c'est ce qui introduit la possibilité malheureuse de la damnation. Nous pouvons nous perdre pour l'éternité, en fonction du choix que nous faisons, et en fonction de l'orientation de notre vie. Donc, voilà, c'est très important de bien comprendre que tout, quelque part, se joue maintenant. Et que maintenant, nous sommes dans le temps de la miséricorde. Et que maintenant, nous avons la possibilité, même si nous avons fait des erreurs, bien de les remettre devant le Seigneur, de demander pardon à Dieu, de reprendre le cap, comme on dit. Et tout le monde fait des erreurs, tout le monde pêche, tout le monde peut se laisser aussi séduire par les ténèbres, tout le monde peut se révolter. Mais tous, nous pouvons aussi poser un acte de prise de conscience, on va dire, de repentir pour déposer devant le Seigneur, reconnaître que comme un peu le bon larron, hein, le bon larron, il reconnaît ses torts devant le Christ en croix à côté de lui. Il dit pour nous c'est justice. Voilà, nous sommes là, nous sommes crucifiés, nous sommes mis à mort, mais pour nous c'est justice après tout ce qu'on a fait. Donc voilà. Nous n'attendons pas le soir de notre vie. Nous pouvons maintenant jouir de la miséricorde. Nous pouvons déposer tous nos erreurs, nos péchés dans le cœur du Christ, par sa miséricorde, en être sanctifié, purifié, et reprendre le chemin, le droit chemin, comme on dit, le chemin de Dieu. Donc nous sommes dans le temps de la miséricorde. Il faut en profiter, parce qu'au soir de notre vie viendra le temps de la justice. Quand nous quitterons cette terre et que nous comparaîtrons devant Dieu, nous serons dans le temps de la justice, dans le temps de la rétribution. Il sera rendu ce que nous avons choisi, encore une fois, et les conséquences de nos actes que nous avons accomplis. Ceci dit, donc, nous devons regarder avec espérance l'espérance de la victoire qui nous est promise, qui n'est pas encore réalisée pleinement, du moins manifestée, on va dire, parce que réalisée, elle a été réalisée à la croix, mais elle n'est pas encore pleinement manifestée. Elle le sera quand le Christ reviendra dans la gloire. Pour l'instant, nous vivons donc dans cette foi, ce regard d'espérance qui anime le cœur des chrétiens. Et l'espérance, c'est le propre aussi de la vertu chrétienne. Ce n'est pas uniquement que la charité, c'est aussi l'espérance. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons qu'autour de nous, beaucoup sont pris par le désespoir. Et c'est vrai qu'humainement parlant, nous pouvons dire l'humanité va à sa perte. Nous sommes pris dans une espèce d'engrenage et nous n'arrivons plus à nous en sortir. Et humainement, il n'y a plus d'issue possible. Mais comme chrétiens, nous savons que le Christ est victorieux et qu'il nous rend victorieux. Et qu'il sera victorieux à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle le dynamisme, le dynamisme de l'histoire par son mouvement interne qui tend vers le but de l'histoire du salut. L'achèvement de l'œuvre rédemptrice du Christ, voilà le but, l'histoire, la fin de l'histoire du salut. L'œuvre rédemptrice du Christ. Et l'homme doit vivre de manière unifiée cette double orientation, puisque Dieu gouverne le monde et qu'il est le maître de l'histoire, il la conduit à sa fin et à sa consommation, de sorte que si l'homme participe positivement et droitement à l'histoire du monde, il contribue indirectement ou partiellement aux fins de l'histoire du salut. Cette contribution indirecte ne se justifie qu'en raison de la primauté de l'une sur l'autre. Elle se réalise quand l'homme subordonne les objectifs temporels de l'histoire humaine à la fin surnaturelle de l'histoire du salut, qui est pour lui une fin ultime. La charité est une valeur surnaturelle qui doit rayonner dans l'ordre temporel et politique d'une manière ou d'une autre, selon des modalités variables, compte tenu des circonstances et des cultures. En revanche, il y en a d'incompatibles avec le christianisme. Le communisme, par exemple, le socialisme, le nationalisme, le fascisme, l'ensemble des systèmes et des idéologies totalitaires du XXe siècle. Tout cela, donc, est vraiment incompatible avec la foi chrétienne. Sur la question des totalitarismes aussi, l'Église s'est penchée et a toujours condamné tous les systèmes totalitaires. Et donc, comme étant objectivement incompatible avec le christianisme et toutes les formes d'idéologie. Rappelons juste, pour ouvrir une parenthèse aussi, que l'Église vient de rappeler l'incompatibilité de l'idéologie franc-maçonne, parce que c'est bien une idéologie, la franc-maçonnerie, avec la foi chrétienne catholique. On ne peut pas être catholique et franc-maçon. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir, il y a eu un document à l'issue du synode, du dernier synode qui vient de se passer. Il y a eu un dernier document donc de la doctrine de la foi qui réaffirme, encore une fois, l'incompatibilité entre le christianisme catholique, le catholicisme, la foi catholique, et la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce que, bien justement, dans les orientations ultimes, eh bien, il y a une divergence. Et on le voit très nettement sur tout ce qui touche à la loi, aux lois bioéthiques. Nous ne pouvons pas défendre l'Église qui défend la vie de sa conception naturelle à sa fin naturelle et en même temps élaborer des projets de loi pour l'euthanasie ou le suicide assisté ou des projets de loi visant à mettre l'avortement dans la Constitution française, par exemple. Donc nous ne pouvons pas être, comme le disait d'ailleurs un ex-franc-maçon, nous ne pouvons pas être pleinement franc-maçon et en même temps catholique convaincu. Donc il y a forcément une divergence à un moment ou à un autre. Donc voilà, en tout cas, pour fermer la parenthèse, l'Église réaffirme encore aujourd'hui cette incompatibilité et toutes les formes d'incompatibilité, toutes les formes de totalitarisme qui aliènent la liberté de l'homme. Pour en revenir à notre fin surnaturelle et à notre destinée éternelle, comme nous l'avons dit, elle se joue sur la terre. Dans et par un objectif temporel à réaliser immédiatement, se joue immédiatement notre salut, notre coopération à l'avènement du royaume des cieux dans l'histoire. Et Jésus lui-même nous le dit, dans l'évangile de Matthieu, quand il parle de cette parabole, la parabole des talents, déjà, qui regarde le jugement particulier, à chacun il a remis un talent, 5 talents, 3 talents, mais peu importe la somme des talents qui est remise, ce que le maître veut, c'est que son serviteur fasse fructifier ses talents. Et bien, c'est ainsi que Dieu nous regarde. Il nous donne le don de la vie, il nous donne les dons nécessaires, la foi, l'espérance, la charité, tant de charismes aussi, tant de dons particuliers qu'il a mis dans la vie de chacun. Eh bien, allons chercher ces dons, faisons-les fructifier. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. C'est là-dessus, sur voilà, ce que nous aurons fait de notre vie, que nous serons jugés. Au tribunal donc du Christ, l'homme sera jugé, lui-même et son histoire. L'histoire des sociétés aussi. Il y a un deuxième jugement, après le jugement particulier, nous le verrons en détail, qui est le jugement des nations. Là, toujours dans l'évangile de Matthieu, nous voyons dans la suite du chapitre 25, C'est cette parabole que l'on connaît bien. Tout ce que vous avez fait au plus petit, d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter, etc. Et tout ce que vous avez fait au plus petit, d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait, eh bien, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ça, Jésus l'introduit comme le jugement des nations. Donc ce jugement dernier qui aura lieu justement au moment de son retour. Donc l'homme sera jugé lui-même et son histoire, l'histoire des sociétés et des cultures dont il ne subsistera que ce qui exprime le royaume, où en est déjà le fruit dans l'histoire, à savoir les réalisations les plus hautes de l'homme, mais transfigurées, telles qu'en elles-mêmes l'éternité les change. Donc c'est tout ça pour nous dire que voilà, ce que Dieu va garder, c'est tout ce qui est déjà en germe de ce royaume des cieux, à travers la charité, à travers l'amour, à travers la justice, à travers la vérité. Tout ce qui appartient à Dieu, eh bien, bien sûr, le Seigneur va non seulement le garder, mais même l'amplifier. Au contraire, tout ce qui est incompatible proprement avec le royaume, tout ce qui est de l'ordre de du compromis avec le péché, avec le mal, tout cela sera détruit. Le mal lui-même sera détruit. Le livre de l'Apocalypse nous le dit clairement quand il en chapitre 17, 18, 19, qui nous parle des jugements. Eh bien, on voit très bien que le mal, Satan en premier, et tous les opérateurs de mal seront détruits. Parce que ne peut entrer en Dieu que ce qui est pur, que ce qui est saint, que ce qui est parfait. Et donc, à Dieu appartient donc ce jugement à la fin des temps. Mais chacun d'entre nous, eh bien voilà, nous comparaîtrons devant le Seigneur aussi en fonction de ce que des orientations de notre vie. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps de notre vie au sérieux. Et tout cela fait partie des dogmes de foi, des vérités à croire. Nous ne sommes pas libres, comme chrétiens catholiques, d'y croire ou de ne pas y croire, ou dire que c'est du passé, que tout ça n'existe plus. Non, ça fait partie de notre credo, et le credo, ce sont les vérités à croire. Quand vous ouvrez le livre du catéchisme de l'Église catholique, qui est le compendium de toute la synthèse de toute la foi catholique, eh bien, vous retrouvez ces articles qui nous parle justement bien du jugement de Dieu. Et donc ça fait partie des vérités que nous devons croire comme catholiques. Il ne nous est pas permis de dire que la foi catholique aujourd'hui a changé, que tout ça c'était du passé. Non, non, non. Mais il faut les regarder avec, un regard vrai. Non pas qui exalte d'un côté ou d'un autre, qui exalte la miséricorde de Dieu, qui fait que de toute façon, il n'y aurait plus de mal, et tout serait récapitulé à la fin parce que Dieu est amour et miséricorde. D'un autre côté, de voir Dieu comme le gendarme ou le juge, à l'image des juges de ce monde, qui rendent une justice impartiale et donc lequel aussi nous devons trembler. Donc voilà, à travers ces deux extrêmes, il y a aussi la vérité que nous enseigne la foi catholique. Encore une fois, je vous réfère aussi à ces numéros 1020 et suivants du catéchisme de l'Église catholique qui nous parle très clairement de toutes ces réalités. Avec saint Augustin, la théologie distingue la cité terrestre temporelle et la cité céleste, la cité de Dieu, l'ordre temporel et l'ordre spirituel. La société civile et l'Église sont distinctes. L'une et l'autre s'inscrivent dans le temps, mais l'Église, par nature et par sa fin transcendante, transcende le temps et l'histoire. Nous savons aussi qu'il y a dans l'histoire humaine deux cités, la cité du mal et la cité de Dieu, selon encore une fois la théologie de saint Augustin. Deux histoires enchevêtrée qui traverse la constitution dans le temps de la Civitas Terrena. Ces deux cités, ces deux histoires ne partagent pas tant les hommes en deux groupements antagonistes qu'elles ne divisent chaque communauté humaine et le cœur de chacun de ses membres. De fait, écrit saint Augustin, elles sont mêlées et enchevêtrées, ces deux cités, dans le temps, jusqu'au jour où le jugement divin les départagera. Tous les hommes ont leur place dans la cité de Dieu. Dans l'Église, ils sont tous invités. Par l'Église, le Christ exerce son action sur tous les hommes, sur le monde et sur l'histoire, pour les intégrer à l'histoire du salut, intégrer tout ce qui peut être intégrable afin que tous soient sauvés, puisque Dieu veut sauver effectivement tous les hommes. Si ceux-ci ne se dérobent pas volontairement par l'endurcissement du cœur à la grâce qui les sollicite. De volonté antécédente, Dieu veut réellement le salut de la multitude. De volonté conséquente, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Seuls seront sauvés ses élus, les prédestinés. Les autres, les réprouvés à cause du péché d'impénitence finale, seront damnés à tout jamais avec les démons. Comme il a été écrit, à la fin des temps, l'histoire universelle s'effacera devant l'histoire du salut, qui elle-même survivra en son accomplissement définitif au-delà du temps dans l'éternité. Ce qui restera de la cité du mal sera dissipé. Les hommes qui, jusqu'au bout, auront refusé de se soumettre à lui librement pour régner avec lui seront rejetés hors du royaume dans les ténèbres extérieures, soumis à lui mais non sauvés. C'est la redoutable rançon de la liberté, sans laquelle il n'y a pas d'histoire, par laquelle seule l'histoire intermondaine de l'homme peut être ordonnée effectivement au salut, à l'histoire du salut, pour finalement se perdre bienheureusement en elle. Lorsque, à la fin, l'histoire sera interrompue et jugée, lors de la parousie du Seigneur, tous les hommes ressusciteront par la puissance du Christ, ressuscitant d'entre les morts, les prédestinés pour la gloire, les réprouvés pour la confusion éternelle. Selon la parole même du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, verset 46, ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Voilà, chers amis auditeurs, eh bien nous terminons notre émission pour cette semaine. Et donc je vous invite à reprendre ces numéros 1020 et suivants du catéchisme de l'Église catholique. Et nous retrouverons donc la semaine prochaine, nous ouvrirons le deuxième chapitre concernant la mort et le salut. À vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.